Une chance sur un milliard, de Gilles Le Gardinier. Chapitre 1. Je venais d'avoir 11 ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. Il faisait nuit, un peu froid. Ça s'est passé dans le garage de mes grands-parents. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Dans la cuisine, ma mère et ma grand-mère Mamette préparaient le dîner en papotant. Leurs propos se mêlaient au bruit métallique des ustensiles. Je ne comprenais pas ce qu'elles disaient, ou plutôt je m'en moquais, car j'avais un plan précis en tête. Le fait qu'elles soient occupées en faisait partie. Un choc sourd ébranle soudain la vénérable maison de famille. L'ancestrale plomberie se met à vibrer en résonnant dans les murs, m'assurant que mon père, après avoir fini de bricoler, vient de passer sous la douche. Le compte à rebours est lancé. Je tends l'oreille. Au salon, mon oncle et ma tante préparent l'apéro pour tout le monde. Un rituel estival pour nous, une funeste habitude pour eux. Mes cousines et mon petit frère, Julien, jouent à l'étage. Leurs voix se font plus fortes chaque fois qu'ils refusent de se soumettre à leurs injonctions de prétendues institutrices. Mon frère se défend comme il peut en hurlant que la rentrée n'aura lieu que dans une semaine. Excepté cette relative agitation, il règne ce soir-là une paisible atmosphère de fin de vacances. Même si je ne suis pas encore capable de l'analyser, je la ressens profondément. Un bonheur discret, presque banal, un décor familier dans lequel tous ceux qui constituent mon monde jouent parfaitement leur rôle. Mais une autre aventure m'attend. Ne pas oublier ma lampe torche. Sortir discrètement de la maison, la contourner en me méfiant du crissement de mes pas sur le gravier pour rejoindre la dépendance attenante. Un petit hangar plein à craquer, un capharnaüm labyrinthique, promesse de fabuleuses découvertes. Nous n'avons, en principe, pas le droit d'y pénétrer, mais aucun adulte ne nous l'a formellement reprécisé cette année. Ce vide juridique permet à ma conscience de m'accompagner sans tomber dans les pommes. Je risque cependant gros si je me fais prendre. Ma mère, garante de l'ordre familial, endossera le rôle du procureur. Ma tante sera à elle seule la foule beuglante qui exige une condamnation exemplaire. Heureusement, mon grand-père sera mon avocat. Papillo, pour les intimes. Contraction de son rang et du début de son prénom, Laurent. Grâce à lui, je n'ai jamais perdu un seul procès, même lors de la terrible affaire du gâteau au chocolat destiné à la voisine que je m'étais empiffré 2 ans plus tôt. J'avais alors découvert sa grande éloquence, mais aussi le fait que mon père était un juré facile à retourner, d'autant qu'il avait profité des miettes et léché le plat. De toute façon, ce soir, si je me fais capturer, je n'aurai aucun mal à plaider l'oubli de l'interdiction. Le principe est bien connu, et la jurisprudence abondante, les garçons de 11 ans ne sont pas bien malins. Sauf pour ce qui les intéresse. Dans ce prodigieux débarras, ma mère prétend que l'on peut se blesser, périr enseveli sous des monceaux de vieilleries entreposées en équilibre, et même attraper le tétanos. Mais il y a bien mieux à ramasser. Ouvrir la porte, assez rapidement pour qu'elle ne grince pas, mais pas trop pour éviter qu'elle n'aille cogner le mur. Tâtonner dans l'obscurité pour atteindre l'interrupteur préhistorique en porcelaine. L'actionner jusqu'au gros déclic. L'ampoule, suspendue au milieu du plafond, s'allume en grésillant dans son déflecteur de métal. Retenir son souffle et franchir le seuil du lieu interdit comme on pénètre dans un temple secret frappé de malédiction. Refermer aussitôt derrière soi. Si l'on tarde à cette étape, on risque de se faire repérer. Plus grave encore, l'appel d'air fera tanguer la lampe. Alors, Les ombres tapies dans les multiples recoins s'animeront, se mettant à danser leur sarabande, déchaînant l'imagination au point de vous donner envie de courir vous constituer prisonnier auprès du procureur, afin qu'il vous fasse un de ces fameux câlins rassurants. Mais ce soir-là, je ne me débrouille pas trop mal, et la lampe n'oscille pas. Je m'offre même le luxe de quelques instants pour savourer le panorama sur ce monde mystérieux, ce bric-à-brac absolu de mal, ce palais de carton plein à craquer, couronné de vieilles valises, parfois entr'ouvertes. Au milieu de cette profusion, pile sous la lampe, une voiture de sport décapotable prend la poussière. Dépassée par les hautes vagues de l'océan de désordre qui l'encercle, elle semble sur le point d'être engloutie. Je l'ai toujours connue là, chaque année un peu plus submergée. On m'a raconté que grand-père s'était juré de la retaper à l'époque où il n'avait encore que de vraies dents. Mais elle n'a plus jamais roulé. Un après-midi, on a surpris Papillot en train de faire la sieste dedans. Je crois qu'il a gardé cette habitude, parce que, contrairement aux autres sièges, celui du conducteur est parfaitement propre et lustré. On distingue aussi la marque de ses mains sur le volant. C'est certainement ce qui s'appelle s'accrocher à ses rêves. Une fois, alors que j'étais tout petit, je m'y suis assis sur ses genoux et j'ai joué à faire semblant de conduire. On a klaxonné, on a ri et on a même hurlé comme si on avait eu un accident dans les piles de boîtes de linge qui ont l'indécence d'envahir le capot. Papillot m'a murmuré qu'il aurait bien voulu qu'elles explosent pour de vrai. Mais ce soir, bien que très content de la retrouver, je ne suis pas revenu pour la voiture. Même une Shelby Cobra 427 de 1966 ne peut pas vous apprendre ce qu'est le destin.